Bienvenue à chacun.
Salut.
Avec le plaisir de vous retrouver ici. Je vous invite à ouvrir votre Bible, deuxième épître de Pierre. On va continuer notre méditation sur les qualités que le Seigneur nous demande d'avoir, les qualités bibliques. Ces trois images que vous avez sous les yeux nous rappellent le sens qui est dit dans ces versets de la deuxième épître de Pierre, mais surtout avec ces grandes questions. Oui, nous sommes en construction. Le but étant de ressembler à quoi ? À Jésus. Donc nous sommes en chemin, en sanctification. Nous devons marcher de progrès en progrès. Mais la question également, c'est de se poser, mais j'en suis à quel niveau dans ma construction ? Est-ce que j'en suis arrivé, et j'espère ce serait le minimum, le béaba, à la fondation, Jésus m'a sauvé. Alléluia.
Amen.
C'est le béaba. Ou suis-je celui qui dit, oui, je sais que le Seigneur m'a sauvé, mais je me laisse transformer par la vie de l'Esprit. Par ma communion, par ma relation avec le Seigneur, il m'enrichit du don de l'Esprit, de la vie de l'Esprit, du fruit de l'Esprit. Ou est-ce que j'ai également cette vision ? Seigneur, tu m'as sauvé. Amen. Seigneur, je veux me laisser transformer. Amen. Mais Seigneur, je veux tendre à ta perfection. Je veux rajouter aux vertus du fruit de l'Esprit les qualités afin d'être ressemblant à Jésus-Christ. Je veux m'enrichir de toi. Je veux un homme parfait. Je veux être une femme parfaite. Je veux être quelqu'un qui soit dans le chemin du perfectionnement. Et c'est cela, la marche chrétienne. Alors, on va relire ce passage de deuxième épître de Pierre. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Et là on passe, vous avez vu, de la grâce à la puissance. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes, mes bien-aimés, les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine. Bien sûr, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Alors, à cause de cela, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. À la vertu, la connaissance. À la connaissance, la maîtrise de soi. À la maîtrise de soi, la patience. À la patience, la piété. À la piété, l'amitié fraternelle. À l'amitié fraternelle, l'amour. Car si ces choses sont en vous, et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin. Et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous, ayez soin, d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection. Car en faisant cela, vous ne broncherez point. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera largement accordé. Amen. Ta grâce, Seigneur, ta grâce. Surtout pour le sujet d'aujourd'hui. Je sais pas, enfin, moi, chaque fois que je vous apporte la méditation dimanche matin, je dis, Seigneur, là, ya, 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 si ça pouvait être quelqu'un d'autre qui prêche. Alors, on va revoir les quelques points que nous avons vus. Nous avions vu la différence entre le fruit de l'esprit et les qualités que nous avons recherchées. Nous avons vu la notion de la sagesse. Rappelons-nous bien cette définition, cette paix, cette grâce, cette miséricorde, cette modération, cet esprit pacifiste. Nous avons la notion de la foi. La foi est une transformation. Amen. Ça, c'est notre foi. On peut se reconnaître dans la chenille, mais il faut surtout qu'on se reconnaisse dans le papillon. Amen. Nous avions vu la notion de la vertu, une disposition constante à vouloir faire le bien et à rejeter le mal. Nous avons vu la notion de la connaissance, qui n'est pas une connaissance intellectuelle, mais cette notion de la compréhension, de l'intelligence spirituelle, car la lettre tue, l'esprit seul vivifie. Nous avons vu la semaine dernière la notion de la maîtrise de soi, qui en appelle au contrôle de soi, qui en appelle à la discipline, car nous savons que nous sommes dans un combat spirituel. La chair, la nature humaine, a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Donc, si nous ne sommes pas maîtres de nous-mêmes, nous ne sommes pas capables de vivre cette vie de l'esprit, cette discipline spirituelle. Et je vous rappelle que discipline, c'était disciple, c'est le premier titre qui est donné aux croyants. Et effectivement, ce matin, nous allons parler de la patience. Est-ce que quelqu'un a l'impression d'être au summum de sa patience? Ok. Donc, je me sens un peu moins nul ce matin. Merci. La patience, nous allons voir que d'un point de vue biblique, elle a une particularité. Je ne sais pas quelle définition il vous vient tout de suite au mot patience. Peut-être même, est-ce que c'est difficile à définir? Quelle image vous avez de la patience? Peut-être que certains se disent la patience, c'est le fait un peu comme la maîtrise de soi, de serrer très fort et puis on se retient. Mais non. Comme on a vu que la maîtrise de soi, ce n'était pas une retenue, mais que c'était plutôt un moyen de valoriser, de canaliser la vie de l'esprit, que c'était justement un moyen de valoriser ce que le Seigneur nous donne. Nous allons voir que la patience, c'est une, je la qualifie comme ça, après je vous laisserai vous-même être maître de ce que vous, comment vous voulez qualifier la patience, mais il me semble que c'est la qualité la plus importante dans la vie du chrétien. Il y a un petit dicton qui dit que sans la maîtrise, la puissance n'est rien. Okay? Sans la maîtrise, la puissance n'est rien. Vous pouvez avoir une super puissance, mais si elle n'est pas canalisée, elle ne sert à rien du tout. Et ben, j'ai envie de dire que sans la patience, notre vie de disciple n'est pas grand-chose. Sans la patience, la vie de disciple n'est pas grand-chose. La patience a deux aspects. Elle est à la fois douceur, nous avons bien fait de terminer nos chants en disant que Jésus est le plus doux des noms, c'était dans les paroles. J'étais un peu plus sensibilisé à la question que vous, c'est normal. Mais également, la patience, c'est cette douceur, mais pas seulement cette douceur, c'est également cette capacité à supporter, mais on va développer ça. On va d'abord voir, effectivement, donc le premier point, comme quoi la patience... Ce qui qualifie la patience, c'est la douceur. Galates, chapitre 5, verset 22, un verset que vous connaissez par cœur. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la douceur, et la maîtrise de soi, à apprendre par cœur. Alors on pourrait se dire, oui, mais alors quelque part, c'est bizarre, parce que si ça fait partie du fruit de l'esprit, pourquoi est-ce qu'on devrait le rechercher? On a vu ça la semaine dernière. Ce que le Seigneur nous donne au travers du fruit de l'esprit, c'est une capacité. Il nous donne, il a changé notre vieille nature, et il nous donne sa nature à lui, et dans cette nature, il nous a donné cette patience. Il nous a donné cette douceur. C'est comme, je ne sais pas, nos ordinateurs ou nos voitures. On s'est bourré de technologie, il y a plein de choses dans nos ordinateurs. On ne se sert peut-être pas de tout, mais il y a la capacité. Le Seigneur nous a donné cette patience. Il nous a donné cette douceur. Il nous a donné cette sensibilité. Et c'est à nous de développer cela. Elle est une capacité que Dieu nous donne, mais je vous le rappelle aussi, c'est une capacité dont nous avons la responsabilité de développer. Relisez tous les paraboles, ou en tout cas plusieurs des paraboles de Jésus. Plusieurs fois, il montre un maître qui confie quelque chose à son serviteur pour qu'après, il lui en demande compte. Et qu'il lui dit, dans quelle mesure est-ce que tu as fait fructifier cela ? Notre responsabilité en tant que disciple de Jésus-Christ, ce n'est pas seulement de savoir, j'ai reçu le fruit de l'Esprit. Mais sachons que nous sommes appelés à développer ce fruit de l'Esprit. Ne laissons pas ce fruit de l'Esprit à l'état embryonnaire. Est-ce que vous avez déjà mangé des fruits qui ne sont pas mûrs ? Est-ce que c'est agréable ? C'est absolument indigeste. Déjà rien que dans la bouche, ça commence déjà à piquer. Mais spirituellement, c'est pareil. Il y a des gens qui ont reçu le Seigneur dans leur cœur, ils ont fait quelques expériences avec lui, ils se laissent un peu changer, mais s'ils en restent là, ils ont un goût bizarre au milieu de nous. Parce que ça manque de développement, ça manque de maturité. La patience, on le retrouve également dans la définition qui est donnée en 1 Corinthiens chapitre 13 de l'amour. L'amour est, et c'est la première qualificative qui est donnée à l'amour est patient. Je lis l'ensemble et vous ferez attention également au dernier point. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux, l'amour ne se vante point. Il ne s'enfle point d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Je vous invite à la maison à reméditer ce passage-là à l'issue de la prédication. Mais voyez que, on reviendra dessus, mais la première qualité qui est donnée à l'amour, c'est la patience. Et le dernier mot qui nous est donné et qui qualifie l'amour, c'est cette capacité à supporter. Comme je vous ai dit tout à l'heure, que sans la patience, notre vie de disciple n'est presque rien. Ça prend de plus en plus forme. Parce que la Bible nous dit que si on n'a pas l'amour, nous ne sommes rien. Donc si j'exclus de ma vie la patience, je suis en train là même de défigurer la notion même de l'amour. Et si je n'ai plus l'amour, ou si je défigure le visage de l'amour, est-ce que je suis un vrai disciple de Jésus? La patience, ce n'est pas seulement un exercice, ce doit être une mentalité. Souvent, nous, quand on pense à la patience, alors on se rappelle des situations où on a dû user de patience. D'ailleurs, on le dit l'expression. Oh, j'ai usé de patience. C'est-à-dire que dans un moment particulier, il a dû là se contenir pour éviter de mal faire. Mais là, au sens biblique, la patience, c'est une mentalité. Je vous lis Colossiens chapitre 3, verset 12. Ainsi donc. Et regardez là encore comme c'est associé à notre identité d'enfant de Dieu. Comme des élus de Dieu. Saint, bien-aimé, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Et là, on voit bien que tous ces mots, humilité, bonté, douceur, patience, on sent que tout ça, c'est la même chose, c'est la même pensée, c'est la mentalité. Ce ne sont pas seulement des mots, mais c'est un état d'esprit, c'est une disposition de cœur. La patience, ce n'est pas le seul fait de se maîtriser. D'ailleurs, c'est bien pour ça qu'il nous est demandé d'ajouter à la maîtrise de soi la patience. Il y aura bien des situations où on va sentir qu'on est à nos limites. Mais quand vous êtes dans ces situations, ne fixez pas votre attention sur une capacité à la maîtrise de vous-même, mais dites, Seigneur, je veux développer la mentalité de cette patience, la mentalité de cette douceur. Permets-moi, non pas seulement de me de me serrer, de me contenir, de tout enfouir en moi-même. Mais permets-moi, au contraire, d'exercer cette douceur, d'exercer cette grâce. La patience, comme j'aime les choses pratiques, on va s'apercevoir que la Bible elle-même nous invite à l'exercer dans des cadres, mais j'ai envie de dire tous les cadres de notre vie. Je vais les limiter à trois domaines. À la maison, au milieu des inconvertis, ouais, tu peux mettre les trois, et dans la communion fraternelle. On peut lire ensemble, tenez, comme on n'est pas très loin, 1 Pierre chapitre 3. 1 Pierre chapitre 3. Car le chrétien, ça se voit premièrement où ? À la maison. C'est là. Un vrai chrétien, c'est là. C'est pas à l'église. C'est à la maison. C'est mon épouse qui peut vous dire si je suis chrétien. C'est moi qui peux vous dire si mon épouse, elle est chrétienne. Parce que c'est là que doit refléter premièrement le parfum de Christ. Alors, c'est parce que Pierre est un garçon très galant. Il commence par les femmes, évidemment. Femmes, que chacune soit de même soumise à son mari, afin que si quelqu'un n'obéisse pas à la parole, c'est-à-dire que si même cette femme est avec un inconverti, qu'il soit gagné sans parole par la conduite de leur femme, en voyant votre manière de vivre chaste et respectueuse. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible. Ce qui est d'un grand prix devant Dieu et également aux yeux de votre mari.
Amen.
Et là, les maris disent amen. Oh oui. Mais nous ne sommes pas en reste, nous les hommes, parce que Dieu nous connaît. Lisons directement le verset 7. Marie. Et là, il n'y a plus d'amen, là. Montrez à votre tour de la réciprocité, de la sagesse. Vous vous rappelez de la définition de la sagesse ? Pacifique, modéré, conciliant. Dans vos rapports avec votre femme, comme avec un sexe plus faible, c'est-à-dire plus fragile, de nature plus délicate. Cette patience, cette douceur doit se manifester dans nos relations conjugales. Je me permets de relire là ce mari montré à votre tour de la sagesse dans vos rapports. En fait, le mot sagesse, là, c'est pas du tout le même que celui qu'on a vu jusqu'à maintenant. En fait, là, le mot sagesse, là, c'est celui de la compréhension. Et donc, on pourrait très bien traduire ce verset en disant « Marie, conduisez-vous avec tact. Essayez de comprendre votre femme. Et Dieu sait comme c'est dur. » Non, c'est pas dans la traduction, pardonnez-moi. « Conduisez-vous avec tact. Essayez de comprendre votre femme. Souvenez-vous qu'elles ont une nature plus fragile, plus délicate. Traitez-les avec respect et honneur. » Amen. Et là, ce sont les femmes qui disent amen. Mais il y a cette nécessité de la douceur dans nos foyers. Combien est-ce qu'il y a de drames dans les foyers ? Parce que justement, le témoignage de la douceur n'y est pas. Ce sont les cris, ce sont les insultes, c'est le mépris. Mais il n'y a pas cette douceur, il n'y a pas ce tact, il n'y a pas cette écoute, il n'y a pas ce désir de se comprendre mutuellement. Si vous voulez détruire votre foyer, faites ainsi. Si vous voulez le restaurer, usons de douceur qui nous nécessite à l'un comme à l'autre de chercher à se comprendre, à s'écouter, d'user de tact, de retenue. Oui. On use beaucoup de retenir avec les autres, n'est-ce pas ? Et pourtant, avec les plus proches, c'est là que c'est le plus dur. Et bien, c'est pour ça qu'il faut faire tous nos efforts pour joindre à la maîtrise de soi la douceur, parce qu'on a besoin même dans nos foyers, dans nos relations conjugaux, à savoir mettre quelques brides pour laisser la douceur s'exprimer. Avec les inconvertis, 1 Pierre chapitre 3 verset 15, comme nous sommes pas très loin, nous pouvons effectivement le lire ensemble. Sanctifiez Christ dans vos cœurs. Soyez toujours prêts à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Amen. Le Seigneur nous dit, il faut que devant les situations où les gens sont là, ils essayent un peu de discuter sur ta foi, sur ton espérance, ou ils essayent un peu de te déstabiliser. Ils te demandent raison, c'est-à-dire que, mais dans quelle mesure est-ce que ce que tu dis c'est vrai? Et n'est-ce pas que tu entends, il y a quelques conversations avec des inconvertis qui peuvent nous agacer un peu. Et bien le Seigneur nous dit, use de patience et de respect. Défends ta foi, bien sûr. Défends l'espérance que tu as. Mais il doit y avoir cette douceur. J'ai eu un contre-témoignage il y a quelques mois. C'est moi le fautif. Je discutais avec une dame, elle était de mauvaise foi. Et s'il y a bien un truc que je ne supporte pas, c'est la mauvaise foi. Alors je répondais, mais je dois bien rendre connaître que mon ton était complètement à l'opposé du message. Ce que nous dégageons parle plus que ce qui sort de notre bouche. Cette douceur, on ne peut pas se le forcer. C'est pour ça que nous devons vraiment rechercher, Seigneur, mets-moi cette mentalité de la douceur. Que devant ceux qui cherchent à me titiller, à m'accuser, à discuter de ma foi que je place en toi, malgré les temps, les circonstances, Seigneur, je veux avoir cette espérance vivante. Il y a de la cohérence, vous savez, dans ce verset-là, quand il est dit de ceux qui vous demandent raison de l'espérance qui est en vous. Mais sincèrement, plus nous avons une espérance réelle avec le Seigneur, plus cette douceur sera naturelle. C'est quand on est agacé, c'est quand on perd cette relation intime avec le Seigneur, c'est quand on ne vit plus quelque chose d'intense avec le Seigneur, qu'on peut se laisser là comme prisonnier, comme coincé. Mais si notre relation avec le Seigneur est une vraie espérance, une vraie relation, quelque chose qui renouvelle régulièrement notre cœur, alors même si on nous accuse, même si on nous pointe du doigt, même si on nous pousse un petit peu dans nos retranchements, alors ce que l'on vit avec le Seigneur nous amène naturellement sur le terrain de la patience et de la douceur. J'ai vu dans ma jeune, j'étais tout jeune converti, c'était dans l'église où je me suis converti. Et dans cette église, il y avait deux personnes particulières. Il y avait une femme qui aimait bien encourager les gens, aller à gauche, à droite. Et j'ai remarqué un truc bizarre chez cette personne, c'est que donc elle nous encourageait à la paix, à la joie et tout. Mais elle était peureuse. Il suffit juste qu'il y ait un petit bruit et vous sentez la fille toute stressée. Rien que dans son regard, on sentait que... Et puis il y avait une autre personne, une petite mamie. Elle ne pouvait pas beaucoup marcher, elle ne pouvait pas beaucoup se déplacer, elle ne pouvait pas... Elle était souvent là avant les autres, elle s'asseyait. Vous rentriez dans l'église, vous croisiez son regard et vous étiez rempli d'une paix. Aujourd'hui, avec le temps, ce n'est pas les encouragements de la personne qui était stressée, mais le simple regard de cette femme était rempli de cette douceur, rempli du message de la paix, rempli de cette espérance. Mais bien aimé, il y a bien plus de puissance dans un esprit que dans les mots. Amen. Et nous devons rechercher ça. Seigneur, je veux grandir dans cette patience qui s'imprègne. Que Dieu nous fasse grâce d'être des gens qui vivons ce que nous disons. Dans le domaine de la communion fraternelle. Éphésiens chapitre 4, il est écrit « Je vous exhorte, moi, le prisonnier dans le Seigneur. » Pourquoi j'ai laissé ce verset-là? Parce que ça rappelle que Paul est en train d'écrire alors que lui-même est en prison. Ok? Et prison sans télé, sans douche. « Je vous exhorte, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher. » Retenez bien cette expression. « D'une manière digne de notre vocation. » Je vous rappelle que sans la patience... Je ne sais pas s'il est capable de vivre notre vie de disciple. De marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Écoutez les mots qu'il emploie. En toute humilité, douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Amen. Efforcez-vous. Efforcez-vous parce que ça fait partie de votre vocation. Si vous êtes aujourd'hui enfant de Dieu, il est normal que vous dégagiez cet esprit d'humilité, de douceur, de patience. C'est dans votre vocation de vous supporter. C'est dans votre vocation de vous efforcer. C'est presque une conclusion parce qu'il y a tous les mots là. Douceur, patience, support, effort. Même dans la discipline de l'Église, en Galates chapitre 6, verset 1er, il est dit « Frères, si un homme vient à être surpris en quelque faute, ça peut arriver ? Est-ce qu'il est possible qu'un chrétien chute ?»
Oui.
C'est important qu'on se le dise aussi.
Oui.
« Oh, il a fait ça ! C'est scandaleux !» Non, c'est pas scandaleux, il a chuté. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Bah, vous qui êtes spirituel, redressez-le avec un esprit de douceur. Amen. Nous avons droit à l'erreur. Non pas que nous avons l'autorisation, non pas que Dieu veut que nous fassions des erreurs, mais Dieu nous a-t-il pas pardonné ? Dieu n'a-t-il pas fait grâce ? Dieu ne fit-il pas grâce jour après jour ? Il y a les choses que l'on peut voir et puis il y a les choses qu'on ne voit pas. Mais Dieu voit tout. C'est facile de condamner qu'il y a un péché visible. Mais peut-être que vous pourriez me jeter des pierres si vous saviez ce qui se passait dans le cœur de votre propre pasteur. Alors, à ce niveau-là, si nous, nous sommes spirituels, et si nous voyons quelqu'un qui a péché, quelle que soit sa faute, mes bien-aimés, laissons nos cailloux par terre. Et usons de cette sagesse qui vient d'en haut. Amen. Elle est pacifique, elle est modérée. Et nous avons besoin aussi. Et nous devons accepter aussi que quelqu'un puisse venir nous voir et nous dire « Mon frère, ma sœur, c'est pas bon là. C'est pas bien ta manière de faire. » Et nous devons à la fois être capables d'aller vers l'autre pour lui dire. Il faut du courage, n'est-ce pas, de temps en temps, hein ? C'est dur. C'est dur de temps en temps d'aller vers l'autre. Même si on veut bien faire, même si on ne veut pas brusquer. Parce qu'on se demande comment il va réagir, et puis on n'a pas envie de l'humilier, la personne. Mais c'est pour ça, c'est tellement important. Seigneur, donne-nous cette patience. Parce que si nous ne sommes pas capables de nous exhorter dans nos zones de difficulté, on va s'exhorter sur quel niveau alors ? Il ne peut pas y avoir d'exhortation mutuelle si on n'est pas capable de parler des sujets sensibles. Vous comprenez ce que je veux dire ? Mais ça doit se faire dans un esprit de douceur, de compréhension, de tact. Non pas pour enfoncer, mais pour encourager. Non pas pour dire aux frères, « Oh, vous savez, j'ai entendu, j'ai appris que... » Mais laisse ton téléphone, coupe le fil même si tu as besoin. Mais règle ce problème avec ton frère, avec ta sœur. Prie avec lui. Et si tu sais qu'effectivement il a un souci, bah rappelle-le lui pour l'encourager, et pas les autres, ça sert à rien les autres. Alors... On a un super exemple, c'est Moïse. Donc Moïse, en Nombre, chapitre 12, verset 3, il est écrit que Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun sur la face de la terre. Pas mal, hein ? L'homme le plus patient. Alors, si vous prenez version, peut-être que vous avez d'autres mots à cet endroit-là. Peut-être que vous trouverez le mot doux ou le mot humble. Mais on comprend bien le sens que les écrivains ont voulu rendre de ce mot-là. Toutefois, je voudrais me servir également de ce même verset pour amorcer la transition pour développer le deuxième point de la douceur, de la patience. Nous avons vu que la patience, c'est la douceur. Et le deuxième point, c'était quoi qui est écrit tout à l'heure ? La capacité à supporter. Vous comprenez bien les difficultés, l'épreuve. En fait, les ceux qui ont traduit le mot patient, doux, humble, ils se sont un peu tâtés pour choisir ce mot-là. Ils ont bien fait, hein, il faut faire des choix. Mais en fait, ce mot-là qui est utilisé, toutes les autres fois, ce mot-là est traduit de l'hébreu en français par le mot souffrance. Ah bon ? Misère. Alors c'est vrai que Moïse était un homme fort souffrant. Eh ben oui. Eh oui. Rappelez-vous un peu la vie de Moïse. Ce qu'il a dû endurer. Non pas avec une communauté de 50 personnes, mais plus d'un million de personnes. Les rebelles, les contestations dans son propre foyer, dans son propre camp, de la division qu'il a vécue, les schismes qu'il a vues dans le peuple. Et tout ça, alors qu'il a dirigé le peuple avec force, avec puissance. Ils ont vu des miracles que nous-mêmes, on ne verra peut-être jamais de ma vie. Et eux, non, c'est faux, toi t'es qui pour nous diriger, toi ? Wow ! Voilà un homme fort patient sous les deux aspects. C'est qu'on voit qu'effectivement, Moïse a usé de douceur avec le peuple. Il y a des pédagogues. Regardez le nombre de fois où il a intercédé pour le peuple. Montrez le nombre de fois où il s'est mis à genoux pour le peuple, alors que le peuple lui-même était en train de le jeter des cailloux. Où le peuple réclamait même sa mort et lui, il intercédait pour le peuple. On voit cette douceur. Il n'est pas un homme de contestation, c'est pas un homme de rébellion, c'est pas un homme qui rend dent pour dent. Mais il avait cette douceur à dire « Waouh, Seigneur, bénis ce peuple, je t'en supplie. Et si tu ne le conduis pas, retire-moi aussi. » Il ne s'est jamais targué de son autorité, mais il a usé de cette douceur, de cette écoute. Mais c'est un homme qui a beaucoup souffert aussi, Moïse. Hein, beaucoup souffert. Et pas seulement avec le peuple, déjà avant. Imaginez-vous que vous restez 40 ans dans un désert. Dieu vous appelle à quelque chose et pendant 40 ans, ce quelque chose, ça ne vient pas. Pendant 40 ans, le Seigneur vous donne une promesse et pendant 40 ans, vous ne voyez rien de cette promesse. On comprend le sens de la patience au sens d'être capable de supporter sans broncher, sans médire, sans rentrer dans l'amertume, sans commencer à cuisiner de mauvais sentiments. En plus, dans... Tu peux passer, je crois, si je me trompe. Dans 2 Pierre, chapitre 1, verset 6, le mot patience, ce n'est pas la même patience que la douceur que nous avons vue depuis le début. Parce qu'effectivement, dans ce texte-là, quand il est dit de faire tous nos efforts pour joindre à la maîtrise de soi, la patience, c'est cette aptitude, je vous l'ai mis en violet, à endurer l'épreuve. À attendre avec patience le secours divin. C'est cette patience-là. Faites tous vos efforts pour que vous appreniez dans l'épreuve à être endurant. Faites tous vos efforts pour que, lorsque les temps sont difficiles, vous ayez cette attente patiente du secours divin. Cette patience que l'on va développer sous trois mots, trois aspects. La constance, l'endurance et la persévérance. Parce que c'est bien de ça dont on a besoin. Lorsque l'épreuve vient, lorsque la difficulté vient, lorsque l'adversité vient. Seigneur, fais-moi grandir dans la constance, fais-moi grandir dans l'endurance, fais-moi grandir dans la persévérance. 2 Timothée, chapitre 3, verset 10. Il est écrit... Tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes projets, ma foi, ma douceur, mon amour, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. Je sais que la lecture était un peu rapide, mais quand on lit ce que Paul dit à Timothée, il dit voilà. Tu as suivi plein d'aspects de ma vie. Et c'est amusant de s'apercevoir qu'il va parler de la douceur, de l'amour, il va parler de la constance, et après il va parler de la persécution et de la souffrance. C'est incroyable comme il fait comme une sorte de pont entre l'amour et la persécution, la douceur et la souffrance. Et au milieu, l'articulation, c'est la constance. Sommes-nous le même ? Sommes-nous les mêmes ? Quand tout va bien et quand tout s'écroule. Sommes-nous constants dans notre humeur ? Lorsque le Seigneur nous exauce ? Et quand on doit patienter la réponse du Seigneur. Vous connaissez le yo-yo ? Nous ne nous rendons service ni à nous-mêmes, ni aux frères et sœurs, lorsque dans notre vie spirituelle, nous faisons le yo-yo. Nous ne rendons ni service à nous-mêmes, ni à la communauté, ni aux inconvertis, lorsque dans nos humeurs, nous jouons du yo-yo. Nous devons apprendre la constance. Seigneur, je veux apprendre. Je veux faire mes efforts pour être constant, pour être un homme, une femme constante dans ma vie. Alors bien sûr, on ne sera peut-être pas toujours au top, mais je vais quand même rechercher à ce que dans ma fidélité vis-à-vis de l'Église, de la fidélité dans ma vie spirituelle, personnelle, dans mes humeurs, dans mes attitudes à l'égard des autres, je sois d'humeur constant. Seigneur, oh, tu me bénis, je vais passer 3 heures dans la prière et puis après plus rien. C'est pas de sens. Ça n'a pas de sens. Il vaut mieux qu'on égalise un peu, mais qu'il y ait de la constance. J'ai remarqué que la constance est un indice de maturité spirituelle chez le chrétien. On peut commencer notre vie spirituelle très en dents de scie comme ça. Si on a du mal encore, on cherche nos repères. Mais il faut que nous grandissions dans la constance, dans nos humeurs, dans nos attitudes, dans nos familiarités avec les gens, dans notre intimité avec le Seigneur. Quand il n'y a pas de constance, nous aggravons les chutes. La constance, mais également l'endurance. Qu'est-ce que l'endurance ? C'est la capacité à résister. La capacité à résister. Dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 24, Paul donne quelques critères pour devenir responsable d'Église. Et il dit, « Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire avoir de la condescendance. » Alors vous avez peut-être d'autres mots tels que affable, doux, aimable, accueillant, bref. Il doit au contraire être, on va dire, accueillant, aimable, être propre à enseigner, doué de patience. Et là, on pourrait se dire, tiens, c'est cette patience, bon, le gars, il s'est patienté. Il s'est attendre au téléphone pendant 3 heures sans broncher. Non. Doué de patience, là, c'est être patient au mot, M-A-U-X. Patient dans les fautes, prêt à supporter la méchanceté. Un serviteur de Dieu doit être doué de cette capacité à se prendre les coups sans broncher. Non mais c'est ça en fait. Doué à supporter les mots. Si quelques-uns, et je le souhaite, ont prié pour ça, ont des aspirations à servir le Seigneur en tant qu'ancien, en tant que prédicateur, en tant que dans un ministère, demandez-vous si vous êtes doué de patience, si vous êtes doué à être capable de prendre des coups tout en tournant l'autre joue. Parce que c'est le sens. Être capable de se laisser insulter, maltraiter, à subir toutes les impolitesses, les mépris, sans que cela affecte votre caractère au sens, vous en perdriez votre constance. Il est important. C'est très important parce que si nous ne sommes pas capables de supporter les coups, alors vous ne pouvez pas être appelé au service. Mais ce qui est vrai pour un appel, dans l'œuvre de Dieu l'est à tout niveau. Quiconque est responsable de quelque chose sait de quoi on parle. Il suffit d'être responsable de quelque chose pour que soudainement vous vous en preniez trois fois plus dans la figure. Ben oui, c'est pas bien, c'est pas comme ci, c'est pas comme ça, n'est-ce pas? Il n'y a que ceux qui ne font rien à qui il leur arrive rien. Mais dès que vous êtes responsable de quelque chose, c'est là que là, malheur à vous. Alors les bien-aimés, dans le monde professionnel, c'est aussi vrai. Dans les services à l'église, c'est aussi vrai. Et c'est une logique des choses. Mais c'est tellement nécessaire également dans le quotidien, mes bien-aimés. Apprenons à savoir encaisser les coups, sans broncher, sans réagir, sans sortir les griffes, sans sortir les crocs, sans commencer à mettre la main sur le revolver. Oh, c'est tellement mieux. C'est Jésus qui a dit, si on vous donne une gifle, hein, tendez l'autre. C'est pas une volonté, mais c'est dire, oh, soyez apaisant dans cette situation. Ne cherchez pas à mettre de l'huile sur le feu. Ne soyez pas de ceux qui veulent chercher à fermer le poing pour rendre l'appareil. Soyez, hop, réagissez avec retrait, avec douceur, avec un esprit conciliant, pacifiste. Apprenons, mes bien-aimés, à supporter les difficultés sans perdre le fruit de l'esprit. Apprenons à supporter les difficultés sans perdre le fruit de l'esprit. Rappelez-vous de Moïse. C'est exactement cet homme qui était là. Il supportait les coups, il supportait les insultes, il supportait les mépris, il supportait même les déstabilisations. Il y a même eu un coup d'État qui a été fait contre lui. Mais il est resté lui-même. Effectivement, il y a eu quelques dérapages. Il reste un homme. Mais ces dérapages restent encore très, comment dire, occasionnels par rapport à toute la charge qu'il a pu supporter. Et vous verrez que dans le même verset, même chapitre, chapitre 12, verset 3, il est dit que donc Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme, et un peu plus loin, il était fidèle dans toute la maison. Et oui, c'est une logique. Il était lui-même. C'était un homme sur lequel on pouvait compter. Faites tous vos efforts, mes bien-aimés, pour être persévérants. Nous sommes dans un combat spirituel. Comment se manifeste ce combat spirituel? Quand nous sommes dans la grâce de Dieu, on vit la paix, on connaît la joie, on est enthousiaste, on est renouvelé, on a l'impression que tout va bien, le Seigneur nous exauce. On est d'accord? Ça, c'est quand on est vraiment dans la présence du Seigneur, on a l'impression qu'on est le plus fort du monde. Et ça, c'est bon. Mais le combat spirituel fait que le diable aussi vient nous titiller. Et c'est tout à fait normal aussi dans notre vie de connaître des temps de découragement, même de désespoir, de doute, d'incompréhension. Que dans notre vie spirituelle, on ne ressent plus rien. On a l'impression que le ciel est fermé. On a l'impression que je ressens plus rien, j'ai envie mais j'y arrive pas, je lis la Bible et ça me parle pas. Mais c'est normal, c'est le combat spirituel. Vous n'êtes pas encore au ciel? Donc c'est tout à fait normal de connaître ces moments où à la fois on peut connaître des moments de grâce extraordinaire, et ça fait partie des privilèges que le Seigneur nous a accordés. Il n'était pas obligé de nous faire vivre ce genre de choses, hein. Le combat spirituel fait que le diable ne va pas vous lâcher prise comme ça. Et lui, il va essayer de vous décourager d'une manière ou d'une autre, de vous déstabiliser. De mettre un peu de poison dans votre cœur pour que tout le reste soit contaminé. La différence entre l'endurance et la persévérance, c'est que l'endurance, c'est la capacité à se prendre des coups. La persévérance, c'est celui de sortir du combat. Amen. On prend des coups. Vous avez vu des matchs de boxe? Ils sont comme ça, ils prennent des coups, ils sont endurants. Enfin bref. Et là, il y a deux attitudes. Enfin, je pense, hein. Je reste comme ça. Oh là là, j'encaisse. Mais bon, plus on encaisse et plus on... Ou alors, intérieurement, le mec, il ne se fixe pas sur l'endurance de l'encaissement, mais il se dit, dès que je vais avoir l'opportunité, je vais en mettre une grave. Et là, on a vu des matchs historiques de retournement de situation où la personne ne fixait pas sa force sur sa résistance parce que nous ne sommes pas résistants. Si nous croyons que devant le diable, nous allons pouvoir encaisser, c'est faux. Vous allez vous perdre de l'énergie, vous serez KO tôt ou tard. Donc l'endurance, le fait d'encaisser, ça ne mène à rien. Mais par contre, la persévérance, c'est-à-dire, je ne fixe pas mon attention sur mon état de cœur fermé, blindé, résistant, mais j'attends le moment favorable. Je suis attentif pour que dès que je peux, bam, je fonce. J'en mets une devant. Mon attention n'est pas sur mon recul, mais mon attention est sur l'opportunité que je vais avoir d'aller devant. L'endurance, c'est juste histoire de supporter, mais la persévérance, c'est d'aller plus loin. Proverbe chapitre 18, verset 9, il est écrit quoi dans ce verset? Il est écrit que celui qui se relâche est frère de celui qui détruit. Celui qui se relâche est frère de celui qui détruit. Eh bien, le persévérant, c'est celui qui refuse de se relâcher, mes bien-aimés. Il fait un choix. Non, je ne veux pas lâcher prise. C'est peut-être dur, j'encaisse. Mais mon objectif, il est devant. Mon objectif, c'est de construire. Bien sûr, j'en prends plein la tête. Peut-être que je suis découragé. Peut-être que je comprends rien. Mais je ne regarde pas à cela. Je regarde au désir de me tenir, de me cramponner, de persévérer dans les œuvres bonnes que Dieu a décidées pour moi. Et qu'est-ce qu'il y a de bon dans notre vie? La prière. Pas 2 minutes le matin et 2 minutes le soir. Mais chercher la face de Dieu. Qu'est-ce qui est bon pour nous? Quelles sont les œuvres bonnes? Mais la méditation dans la parole de Dieu. Qu'est-ce qui est bon pour nous? Le service dans l'église. Qu'est-ce qui est bon pour nous? L'exhortation. Qu'est-ce qui est bon pour nous? L'évangélisation. Je ne veux pas me relâcher dans ces domaines. Parce que le jour où vous commencez à vous relâcher dans ce domaine, vous êtes en train de signer votre propre chaos dans les mois ou les années à venir. Mais je tiens bon. Même s'il n'y a pas de fruits. Mais bien aimé, notre service, notre engagement devant le Seigneur ne doit pas être fixé sur les résultats. Notre service, notre engagement devant le Seigneur est une question d'obéissance. D'obéissance. Je sers Dieu, pas parce que j'ai du fruit, pas parce que j'ai du résultat. Je sers Dieu parce que Dieu me le demande. Et le fruit, le résultat, c'est lui qui le fait. C'est lui qui œuvre. C'est lui qui travaille. Nous devons être là où le Seigneur nous demande d'être. Il nous appelle à être persévérants. Si nous ne sommes pas persévérants, si nous ne sommes pas dans cet objectif de ce boxeur qui dit « j'encaisse, mais je veux saisir la moindre opportunité pour aller de l'avant, pour remporter la victoire. » N'est-ce pas le Seigneur qui nous donnera cette force-là?
Amen.
Nous ne sommes pas forts. Nous n'avons pas cette force. Mais il nous a donné l'Esprit. L'Esprit est avec nous pour nous aider. Alors nous avons la capacité de relever. Nous avons la capacité de relever la tête. Nous avons la capacité de tenir ferme devant le diable. N'est-il pas écrit « résistez au diable » mais il fuira loin de vous. Ne nous a-t-il pas donné des promesses extraordinaires que personne ici ne puisse se dire « je suis dans une situation là où je prends ». C'est faux. Peut-être que tu prends, mais ce n'est pas ça que tu dois regarder. Tu dois regarder le combat qui est déjà remporté au nom de Jésus-Christ. Amen. Et il nous a fait asseoir dans les lieux célestes. Et il y a une position spirituelle à saisir. Si nous la refusons, si nous sommes là retranchés sur nous-mêmes, nous ne sommes pas dans la patience selon Dieu. Nous sommes dans l'anesthésie du malin, c'est tout. Il y a 2 choses différentes entre patienter avec cette attente et l'anesthésie, celui qui s'endort. C'est 2 attitudes différentes. Peut-être qu'à la vision, on dirait que c'est pareil. Ça ne bouge pas beaucoup. Mais c'est l'intérieur qui importe. Tous les sportifs vous diront qu'il y a l'entraînement physique, mais le plus gros des entraînements, c'est dans la tête. Et nous, c'est pareil. Nous avons les promesses. Nous avons la victoire. Il nous a déjà donné les armes. Mais c'est à nous d'être persévérants. Seigneur, je veux tenir ma position spirituelle. Je veux être fervent d'esprit. Je ne veux pas me laisser couler. Ça veut dire quoi, ça? Oh, si l'ambiance est bonne, je serai bien. Et si l'ambiance n'est pas bonne, alors on laissera passer. Ça, c'est faux. C'est à nous. C'est à nous de nous réveiller. Sans la patience, notre vie de disciple n'est pas grand-chose. sans la patience.
Nous ne pouvons pas être à l'image de notre objectif.
Et rappelez-vous de ces paroles qui résument ce que nous devons être et l'exemple que Jésus nous a donné. Jésus était cet homme doux et humble de cœur. Amen. Mais il était en même temps, selon Ésaïe 53, l'homme de douleur habitué à la souffrance. Et l'un n'empêche pas l'autre. Les deux ne s'opposent pas. Et notre vie spirituelle, nous pouvons la connaître la même chose. Tel qu'il a souffert, vous aussi, armez-vous de la même pensée. Mais il nous est aussi demandé d'avoir en nous les sentiments qui sont en Jésus-Christ. Amen. Sans la patience, notre vie de disciple n'est rien. Nous avons besoin à la fois de cette patience douce et de cette patience qui soit capable de supporter. Amen.